deux nouvelles qui, de Maupassant. L'enfant. Après avoir longtemps juré qu'il ne se marierait jamais, Jacques Bourdillère avait soudain changé d'avis. Cela est arrivé brusquement un été au bain de mer. Un matin, comme il était étendu sur le sable, tout occupé à regarder les femmes sortir de l'eau, un petit pied l'avait frappé par sa gentillesse et sa mignardise. Ayant levé les yeux plus haut, toute la personne le séduisit. De toute cette personne, il ne voyait d'ailleurs que les chevilles et la tête émergeant d'un peignoir de flanelle blanche, clos avec soin. On le disait sensuel et viveur, c'est donc par la seule grâce de la forme qu'il fut capté d'abord. Puis, il fut retenu par le charme d'un doux esprit de jeune fille, simple et bon, frais comme les joues et les lèvres. Présenté à la famille, il plut, et il devint bientôt fou d'amour. Quand il apercevait Berthe Lannis de loin, sur la longue plage de sable jaune, il frémissait jusqu'aux cheveux. Près d'elle, il devenait muet, incapable de rien dire et même de penser, avec une espèce de bouillonnement dans le cœur, de bourdonnement dans l'oreille, d'effarement dans l'esprit. Était-ce donc de l'amour, cela ? Il ne le savait, n'y comprenait rien, mais demeurait en tout cas bien décidé à faire sa femme de cet enfant. Les parents hésitèrent longtemps, retenus par la mauvaise réputation du jeune homme. Il avait une maîtresse, disait-on, une vieille maîtresse, une ancienne et forte liaison, une de ces chaînes qu'on croit rompues et qui tiennent toujours. Outre cela, il aimait pendant des périodes plus ou moins longues toutes les femmes qui passaient à portée de ses lèvres. Alors, il se rangea, sans consentir même, à revoir une seule fois celle avec qui il avait vécu longtemps. Un ami régla la pension de cette femme, assura son existence. Jacques paya, mais ne voulut pas entendre parler d'elle, prétendant désormais ignorer jusqu'à son nom. Elle écrivit des lettres sans qu'il les ouvrît. Chaque semaine, il reconnaissait l'écriture maladroite de l'abandonnée et chaque semaine, une colère plus grande lui venait contre elle et il déchirait brusquement l'enveloppe et le papier sans ouvrir, sans lire une ligne, une seule ligne, sachant d'avance les reproches et les plaintes contenues là-dedans. Comme on ne croyait guère à sa persévérance, on fit durer l'épreuve tout l'hiver, et c'est seulement au printemps que sa demande fut agréée. Le mariage eut lieu à Paris, dans les premiers jours de mai. Il était décidé qu'il ne ferait point le classique voyage de noces. Après un petit bal, une sauterie de jeunes cousines qui ne se prolongerait point au-delà de 11 heures pour ne pas éterniser les fatigues de cette longue journée de cérémonie, les jeunes époux devaient passer leur première nuit commune dans la maison familiale, puis partir seuls le lendemain matin pour la plage chère à leur cœur où ils s'étaient connus et aimés. La nuit était venue, on dansait dans le grand salon. Ils s'étaient retirés tous les deux dans un petit boudoir japonais, tendu de soie éclatante, à peine éclairé ce soir-là par les rayons alanguis d'une grosse lanterne de couleur pendue au plafond comme un œuf énorme. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer parfois des souffles frais du dehors, des caresses d'air qui passaient sur les visages, car la soirée était tiède et calme, pleine d'odeurs de printemps. Ils ne disaient rien. Ils se tenaient les mains en se les pressant parfois de toute leur force. Elle demeurait, les yeux vagues, un peu éperdue par ce grand changement dans sa vie, mais souriante, remuée, prête à pleurer. Souvent prête aussi à défaillir de joie, croyant le monde entier changé par ce qui lui arrivait, inquiète sans savoir de quoi. et sentant tout son corps, toute son âme envahie d'une indéfinissable et délicieuse lassitude. Lui la regardait obstinément, souriant d'un sourire fixe. Il voulait parler, ne trouvait rien et restait là, mettant toute son ardeur en dépression de main. De temps en temps, il murmurait « Berthe ». Et chaque fois, elle levait les yeux sur lui d'un regard doux et tendre. Il se contemplait une seconde, puis son regard à elle, pénétré et fasciné par son regard à lui, retombait. Il ne découvrait aucune pensée à échanger. On les laissait seuls, mais parfois un couple de danseurs jetait sur eux, en passant, un coup d'œil furtif comme s'il eût été témoin discret et confident d'un mystère. Une porte de côté s'ouvrit. Un domestique entra, tenant sur un plateau une lettre pressée qu'un commissaire venait d'apporter. Jacques prit en tremblant ce papier, saisi d'une peur vague et soudaine, la peur mystérieuse des brusques malheurs. Il regarda longtemps l'enveloppe dont il ne connaissait point l'écriture. N'osant pas l'ouvrir, désirant follement ne pas lire, ne pas savoir, mettre en poche cela et se dire « À demain, demain je serai loin, peu m'importe !» Mais sur un coin, de grands mots soulignés, très urgents, le retenaient et l'épouvantaient. Il demanda « Vous permettez, mon ami ?» déchira la feuille collée et lut. Il lut le papier, pâlissant affreusement, le parcourut d'un coup et, lentement, sembla les plaies. Quand il releva la tête, toute sa face était bouleversée. Il balbutia « Ma chère petite, c'est mon meilleur ami à qui il arrive un très grand malheur. Il a besoin de moi tout de suite, pour une affaire de vie ou de mort. Me permettez-vous de m'absenter 20 minutes? Je reviens aussitôt. » Elle bégaya, tremblante, effarée. « Allez, mon ami !» N'étant pas encore assez sa femme pour oser l'interroger et pour exiger savoir. Et il disparut. Elle resta seule, écoutant danser dans le salon voisin. Il avait pris un chapeau, le premier trouvé, un pardessus quelconque, et il descendit en courant l'escalier. Au moment de sauter dans la rue, il s'arrêta encore sous le bec de gaz du vestibule et relut la lettre. Voici ce qu'elle disait. « Monsieur, une fille ravée, votre ancienne maîtresse, paraît-il, vient d'accoucher d'un enfant qu'elle prétend être à vous. La mère va mourir et implore votre visite. Je prends la liberté de vous écrire et de vous demander si vous pouvez accorder ce dernier entretien à cette femme qui semble être très malheureuse et digne de pitié. Votre serviteur, docteur Bonnard. » Quand il pénétra dans la chambre de la mourante, elle agonisait déjà. Il ne la reconnut pas d'abord. Le médecin et deux gardes la soignaient, et partout à terre traînaient des seaux pleins de glace et des linges pleins de sang. L'eau répandue inondait le parquet. Deux bougies brûlaient sur un meuble. Derrière le lit, dans un petit berceau d'osier, l'enfant criait, et à chacun de ses vagissements, la mère, torturée, essayait un mouvement, grelottante sous les compresses gelées. Elle saignait, blessée à mort, tuée par cette naissance. Toute sa vie coulait, et malgré la glace, malgré les soins, l'invincible hémorragie continuait, précipitait son heure dernière. Elle reconnut Jacques et voulut lever les bras. Elle ne put pas, tant ils étaient faibles, mais sur ses joues livides, des larmes commencèrent à glisser. Il s'abattit à genoux près du lit, saisit une main pendante et la baisa frénétiquement. Puis, peu à peu, il s'approcha tout près du maigre visage qui tressaillait à son contact. Une des gardes, debout, une bougie à la main, les éclairait, et le médecin, s'étant reculé, regardait du fond de la chambre. Alors, d'une voix lointaine, en haletant, elle dit « Je vais mourir ». mon chéri. Promets-moi de rester jusqu'à la fin. Oh, ne me quitte pas maintenant. Ne me quitte pas au dernier moment. » Il la baisait au front, dans ses cheveux, en sanglotant. Il murmura : « Sois tranquille, je vais rester. » Elle fut quelques minutes avant de pouvoir parler encore, tant elle était oppressée et défaillante. Elle reprit : « C'est à toi, le petit. Je te le jure devant Dieu. Je te le jure sur mon âme. Je te le jure au moment de mourir. Je n'ai pas aimé d'autre homme que toi. Promets-moi de ne pas l'abandonner. » Il essayait de prendre encore dans ses bras ce misérable corps déchiré, vidé de sang. Il balbutia, affolé de remords et de chagrin : « Je te le jure, je l'élèverai et je l'aimerai. Il ne me quittera pas. » Alors, elle tenta d'embrasser Jacques. Impuissante à lever sa tête épuisée, elle tendait ses lèvres blanches dans un appel de baiser. Il approcha sa bouche pour cueillir cette lamentable et suppliante caresse. Un peu calmée, elle murmura tout bas : « Apporte-le-moi, apporte-le, que je voie si tu l'aimes. » Et il alla chercher l'enfant. Il le posa doucement sur le lit, entre eux, et le petit être cessa de pleurer. Elle murmura : « Ne bouge plus. » Et il ne remua plus. Il resta là, tenant en sa main brûlante cette main que secouaient des frissons d'agonie, comme il avait tenu tout à l'heure une autre main que crispaient des frissons d'amour. De temps en temps, il regardait l'heure d'un coup d'œil furtif, guettant l'aiguille qui passait minuit, puis une heure, puis deux heures. Le médecin s'était retiré. Les deux gardes, après avoir rôdé quelque temps d'un pas léger par la chambre, sommeillaient maintenant sur des chaises. L'enfant dormait et la mère, les yeux fermés, semblait se reposer aussi. Tout à coup, comme le jour blafard filtrait entre les rideaux croisés, elle tendit ses bras d'un mouvement si brusque et si violent qu'elle faillit jeter à terre son enfant. Une espèce de râle se glissa dans sa gorge, puis elle demeura sur le dos, immobile, morte. Les gardes accourus déclarèrent : « C'est fini. » Il regarda une dernière fois cette femme qu'il avait aimée, puis la pendule qui marquait 4 heures, et s'enfuit, oubliant son pardessus en habit noir avec l'enfant dans ses bras. Après qu'il l'eut laissé seul, sa jeune femme avait attendu, assez calme d'abord, dans le petit boudoir japonais, puis, ne le voyant point réapparaître, elle était rentrée dans le salon d'un air indifférent et tranquille, mais inquiète horriblement. Sa mère, l'apercevant seule, avait demandé : « Où est donc ton mari ? » Elle avait répondu : « Dans sa chambre, il va revenir. » Au bout d'une heure, comme tout le monde l'interrogeait, elle avoua la lettre et la figure bouleversée de Jacques et ses craintes d'un malheur. On attendit encore. Les invités partirent. Seuls les parents les plus proches demeuraient. À minuit, on coucha la mariée, toute secouée de sanglots. Sa mère et deux tantes, assises autour du lit, l'écoutaient pleurer, muette et désolée. Le père était parti chez le commissaire de police pour chercher des renseignements. À 5 heures, un bruit léger glissa dans le corridor. Une porte s'ouvrit et se ferma doucement, puis, soudain, un petit cri pareil à un miaulement de chat courut dans la maison silencieuse. Toutes les femmes furent debout d'un bond, et Berthe, la première, s'élança malgré sa mère et ses tantes, enveloppée de son peignoir de nuit. Jacques, debout, au milieu de la chambre, livide, haletant, tenait un enfant dans ses bras. Les 4 femmes le regardèrent effarées, mais Berthe, devenue soudain téméraire, le cœur crispé d'angoisse, courut à lui. « Qu'y a-t-il ? Dites, qu'y a-t-il ? » Il avait l'air fou. Il répondit d'une voix saccadée : « Il y a que j'ai un enfant, que la mère vient de mourir. » Et il présentait dans ses mains, inhabile, le marmot hurlant. Berthe, sans dire un mot, saisit l'enfant, l'embrassa, l'étreignant contre elle. Puis, relevant sur son mari ses yeux pleins de larmes, « La mère est morte, dites-vous ?» Il répondit, « Oui, tout de suite, dans mes bras. J'avais rompu depuis l'été, je ne savais rien, moi. C'est le médecin qui m'a fait venir. » Alors, Berthe murmura, « Eh bien, nous l'élèverons, ce petit. » Le pardon. Elle avait été élevée dans une de ces familles qui vivent enfermées en elles-mêmes et qui semblent toujours loin de tout. Elles ignorent les événements politiques, bien qu'on en cause à table, mais les changements de gouvernement se passent si loin qu'on parle de cela comme d'un fait historique, comme de la mort de Louis XVI ou du débarquement de Napoléon. Les mœurs se modifient, les modes se succèdent. On ne s'en aperçoit guère dans la famille calme où l'on suit toujours les coutumes traditionnelles. Et si quelques histoires scabreuses se passent dans les environs, le scandale vient mourir au seuil de la maison. Seuls le père et la mère, un soir, échangent quelques mots là-dessus, mais à mi-voix, à cause des murs qui ont partout des oreilles. Et discrètement, le père dit « Tu as su cette terrible affaire dans la famille des Rivoyes ?» Et la mère répond, « Qui aurait jamais cru cela ? C'est affreux !» Les enfants ne se doutent de rien, et ils arrivent à l'âge de vivre à leur tour avec un bandeau sur les yeux et sur l'esprit, sans soupçonner les dessous de l'existence, sans savoir qu'on ne pense pas comme on parle et qu'on ne parle point comme on agit, sans savoir qu'il faut vivre en guerre avec tout le monde, ou du moins en paix armée, sans deviner qu'on est sans cesse trompé quand on est naïf, joué quand on est sincère, maltraité quand on est bon. Les uns vont jusqu'à la mort, dans cet aveuglement de probité, de loyauté, d'honneur, tellement intègre que rien ne leur ouvre les yeux. Les autres, désabusés sans bien comprendre, trébuchent éperdus, désespérés et meurent en se croyant les jouets d'une fatalité exceptionnelle, les victimes misérables d'événements funestes et d'hommes particulièrement criminels. Les Savignolles marièrent leur fille Berthe à 18 ans. Elle épousa un jeune homme de Paris, Georges Baron, qui faisait des affaires à la bourse. Il était beau garçon, parlait bien, avec tous les dehors propres qu'il fallait. Mais au fond du cœur, il se moquait un peu de ses beaux-parents attardés qu'il appelait entre amis « mes chers fossiles ». Il appartenait à une bonne famille et la jeune fille était riche. Il l'emmena vivre à Paris. Elle devint une de ces provinciales de Paris dont la race est nombreuse. Elle demeura ignorante de la grande ville, de son monde élégant, de ses plaisirs, de ses costumes, comme elle était demeurée ignorante de la vie, de ses perfidies et de ses mystères. Enfermée en son ménage, elle ne connaissait guère que sa rue, et quand elle s'aventurait dans un autre quartier, il lui semblait accomplir un voyage lointain, en ville inconnue et étrangère. Elle disait le soir, « J'ai traversé les boulevards aujourd'hui. » Deux ou trois fois par an, son mari l'emmenait au théâtre. C'était des fêtes dont le souvenir ne s'éteignait plus et dont on reparlait sans cesse. Quelquefois, à table, trois mois après, elle se mettait brusquement à rire et s'écriait « Te rappelles-tu cet acteur habillé en général et qui imitait le chant du coq ?» Toutes ses relations se bornaient à deux familles alliées, qui, pour elle, représentaient l'humanité. Elle les désignait en faisant précéder leur nom de l'article « les Martinet et les Michelin ». Son mari vivait à sa guise, rentrant quand il voulait, parfois au jour levant, prétextant des affaires, ne se gênant point, sûr que jamais un soupçon n'effleurerait cette âme candide. Mais, un matin, elle reçut une lettre anonyme. Elle demeura éperdue, ayant le cœur trop droit pour comprendre l'infamie des dénonciations, pour mépriser cette lettre dont l'auteur se disait inspiré par l'intérêt de son bonheur et la haine du mal et l'amour de la vérité. On lui révélait que son mari avait, depuis 2 ans, une maîtresse, une jeune veuve, Madame Rosset, chez qui il passait toutes ses soirées. Elle ne sut ni feindre, ni dissimuler, ni épier, ni ruser. Quand il revint pour déjeuner, elle lui jeta cette lettre en sanglotant et s'enfuit dans sa chambre. Il eut le temps de comprendre, de préparer sa réponse, et il alla frapper à la porte de sa femme. Elle ouvrit aussitôt, n'osant pas le regarder. Il souriait. Il s'assit, l'attira sur ses genoux, et d'une voix douce, un peu moqueuse. « Ma chère petite, j'ai en effet pour amie Madame Rosset, que je connais depuis 10 ans et que j'aime beaucoup. J'ajouterai que je connais 20 autres familles dont je ne t'ai jamais parlé, sachant que tu ne recherches pas le monde, les fêtes et les relations nouvelles. Mais pour en finir une fois pour toutes avec ces dénonciations infâmes, je te prierai de t'habiller après le déjeuner et nous irons faire une visite à cette jeune femme qui deviendra ton amie, je n'en doute pas. » Elle embrassa à plein bras son mari, et par une de ces curiosités féminines qui ne s'endorment plus une fois éveillée, elle ne refusa point d'aller voir cet inconnu qui lui demeurait, malgré tout, un peu suspecte. Elle sentait, par instinct, qu'un danger connu et presque évité. Elle entra dans un petit appartement, coquet, plein de bibelots, orné avec art, au 4e étage d'une belle maison. Au bout de 5 minutes d'attente, dans un salon assombri par des tentures, des portières, des rideaux drapés gracieusement, une porte s'ouvrit et une jeune femme apparut, très brune, petite, un peu grasse, étonnée et souriante. Georges fit les présentations. « Ma femme, Madame Julie Rosset. » La jeune veuve poussa un léger cri d'étonnement et de joie et s'élança, les deux mains ouvertes. Elle n'espérait point, disait-elle, avoir ce bonheur, sachant que Madame Baron ne voyait personne, mais elle était si heureuse, si heureuse. Elle aimait tant Georges, elle disait Georges tout court avec une fraternelle familiarité. Qu'elle avait une envie folle de connaître sa jeune femme et de l'aimer aussi. Au bout d'un mois, les deux nouvelles amies ne se quittaient plus. Elles se voyaient chaque jour, souvent 2 fois, et dînaient tous les soirs ensemble, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Georges, maintenant, ne sortait plus guère, ne prétextait plus d'affaires, adorant, disait-il, son coin du feu. Enfin, un appartement s'étant trouvé libre dans la maison habitée par Madame Rosset, Madame Baron s'empressa de le prendre pour se rapprocher et se réunir encore davantage. Et pendant 2 années entières, ce fut une amitié sans nuages, une amitié de cœur et d'âme absolue, tendre, dévouée, délicieuse. Berthe ne pouvait plus parler sans prononcer le nom de Julie, qui représentait pour elle la perfection. Elle était heureuse, d'un bonheur parfait, calme et doux. Mais voici que Madame Rosset tomba malade. Berthe ne la quitta plus. Elle passait les nuits, se désolait. Son mari lui-même était désespéré. Or, un matin, le médecin, en sortant de sa visite, prit à part Georges et sa femme et leur annonça qu'il trouvait fort grave l'état de leur ami. Dès qu'il fut parti, les jeunes gens, atterrés, s'assirent l'un en face de l'autre, puis brusquement se mirent à pleurer. Ils veillèrent la nuit, tous les deux ensemble, auprès du lit. Et Berthe, à tout instant, embrassait tendrement la malade, tandis que Georges, debout devant les pieds de sa couche, la contemplait silencieusement, avec une persistance acharnée. Le lendemain, elle allait plus mal encore. Enfin, vers le soir, elle déclara qu'elle se trouvait mieux et contraignit ses amis à redescendre chez eux pour dîner. Ils étaient tristement assis dans leur salle, sans guère manger, quand la bonne remit à Georges une enveloppe. Il l'ouvrit, lut, devint livide, et se levant, il dit à sa femme, d'un air étrange, « Attends-moi, il faut que je m'absente un instant, je serai de retour dans 10 minutes. Surtout, ne sors pas !» Et il courut dans sa chambre prendre son chapeau. Berthe l'attendit, torturée par une inquiétude nouvelle, mais docile en tout, elle ne voulait point remonter chez son ami avant qu'il fût revenu. Comme il ne reparaissait pas, la pensée lui vint d'aller voir en sa chambre s'il avait pris ses gants, ce qui eût indiqué qu'il devait entrer quelque part. Elle les aperçut du premier coup d'œil. Près d'eux, un papier froissé gisait, jeté là. Elle le reconnut aussitôt. C'était celui qu'on venait de remettre à Georges. Et une tentation brûlante, la première de sa vie, lui vint de lire, de savoir. Sa conscience révoltée luttait, mais la démangeaison d'une curiosité fouettée et douloureuse poussait sa main. Elle saisit le papier, l'ouvrit, reconnut aussitôt l'écriture, celle de Julie, une écriture tremblée au crayon. Elle lut. « Viens seul m'embrasser, mon pauvre ami. Je vais mourir. » Elle ne comprit pas d'abord et restait là, stupide, frappée surtout par l'idée de mort. Puis, soudain, le tutoiement saisit sa pensée. Et ce fut comme un grand éclair illuminant son existence, lui montrant toute l'infâme vérité, toute leur trahison, toute leur perfidie. Elle comprit leur longue astuce, leur regard, sa bonne foi jouée, sa confiance trompée. Elle les revit l'un en face de l'autre, le soir, sous l'abat-jour de sa lampe, lisant le même livre, se consultant de l'œil à la fin des pages. Et son cœur, soulevé d'indignation, meurtri de souffrance, s'abîma dans un désespoir sans bornes. Des pas retentirent. Elle s'enfuit et s'enferma chez elle. Son mari bientôt l'appela. « Viens vite, Madame Rosset va mourir. » Berthe parut sur sa porte et, la lèvre tremblante, retournait seule auprès d'elle. « Elle n'a pas besoin de moi. » Il la regarda follement, abruti de chagrin, et il reprit. « Vite, vite, elle meurt !» Berthe répondit. « Vous aimeriez mieux que ce fût moi. » Alors, il comprit peut-être, et s'en alla, remontant près de l'agonisante. Il la pleura sans dissimulation, sans pudeur, indifférent à la douleur de sa femme qui ne lui parlait plus, ne le regardait plus, vivait seule, murée dans le dégoût, dans une colère révoltée, et priait Dieu matin et soir. Ils habitaient ensemble pourtant, mangeaient face à face, muets et désespérés. Puis, il s'apaisa peu à peu, mais elle ne lui pardonnait point. Et la vie continua, dure pour tous les deux. Pendant un an, ils demeurèrent aussi étrangers l'un à l'autre que s'ils ne se fussent pas connus. Berthe faillit devenir folle. Puis, un matin, étant partie dès l'aurore, elle rentra vers 8 heures, portant en ses deux mains un énorme bouquet de roses blanches, toutes blanches. Et elle fit dire à son mari qu'elle désirait lui parler. Il vint, inquiet, troublé. « Nous allons sortir ensemble, » lui dit-elle. « Prenez ces fleurs, elles sont trop lourdes pour moi. » Il prit le bouquet et suivit sa femme. Une voiture les attendait qui partit dès qu'ils furent montés. Elle s'arrêta devant la grille du cimetière. Alors, Berthe, dont les yeux s'emplissaient de larmes, dit à Georges : « Conduisez-moi à sa tombe. » Il tremblait sans comprendre, et il se mit à marcher devant, tenant toujours les fleurs en ses bras. Il s'arrêta enfin devant un marbre blanc et le désigna sans rien dire. Alors, elle lui prit le grand bouquet et, s'agenouillant, le déposa sur les pieds du tombeau. Puis, elle s'isola en une prière inconnue et suppliante. Debout, derrière elle, son mari, hanté de souvenirs, pleurait. Elle se releva et lui tendit les mains. « Si vous voulez, nous serons amis, » dit-elle. «